CFM.
CFM, le MAG, tous les jours, 17h-17h30, la vie du Tarn-et-Garonne.
À qui le tour ? Bonjour, et comme chaque jeudi soir, on laisse le micro à Kader Youb. Et ce soir, on va parler de Alternativa avec nos invités Christian Lagasse et Jean-François Saint-Hilary. Bonjour Kader.
Bonjour Aurélien, bonjour à tous. Oui, effectivement, l'histoire a souvent montré que les ruptures énergétiques ont accompagné ou provoqué des grands changements dans l'organisation de la vie des hommes en société, sans remonter bien sûr à l'âge de feu. Le pétrole, l'électricité ont métamorphosé les villes et les vies. Se pourrait-il que nous ayons devant nous des changements plus importants encore ? De nouveaux acteurs, en tout cas, qui en sont persuadés, sont appelés à jouer un rôle avant-scène énergétique, remplaçant ou au moins concurrençant les structures industrielles ou institutionnelles. Sur le modèle des start-up de la révolution Internet, de nouveaux acteurs, des innovateurs apparaissent. Certains ne résisteront pas longtemps, d'autres seront porteurs d'innovations encore inattendues. On ne sait pas encore où se situera Alternativa dans cette multitude de mouvements, cette kyrielle d'initiatives populaires. Avec nous donc, vous l'avez dit, tu l'as dit Aurélien, pour en parler aujourd'hui, Christian Lagasse et Jean-François Saint-Hilary, qui organisent donc Alternativa à l'honneur de Cos, le village des alternatives, les 16 et 17 mai prochains. Bonjour messieurs et bienvenue sur CFM Radio.
Bonjour. Bonjour.
Alors le climat, c'est au cœur de l'action d'Alternativa. Comment ce concept de village alternatif au réchauffement climatique est-il né ?
Alors ce concept est né à Bayonne en octobre 2013. Ça a été créé donc par l'association BISI du Pays Basque. Et donc c'est une association à la fois altermondialiste et écologiste qui a décidé de lancer un grand mouvement, et c'est un mouvement qui est devenu national, un grand mouvement pour, avant la conférence climat qui va avoir lieu à cette fin d'année en 2015, pour peser sur les décisions afin qu'il y ait vraiment des décisions concrètes et importantes de prise lors de cette COP21.
Alors, on sait qu'on peut mobiliser sur le gaz de schiste, on l'a vu il y a quelques mois, quelques années, le nucléaire, bien sûr, ou l'agriculture, mais le climat, est-ce possible de mobiliser, je vous pose la question à tous les deux, est-ce que c'est possible quand on est ici à Montauban, on en parle en préparant l'émission.
Tout d'abord, vous venez de citer des luttes, mais il faut bien montrer il ne suffit pas d'être contre, il faut être pour les alternatives, justement. Et donc, ce grand mouvement Alternativa nous donne l'occasion, à nous, à ce local, de concrétiser en quelque sorte ce qu'on essaie de faire depuis de multiples années, à savoir de montrer des initiatives concrètes et locales.
Christian Lagasse,
oui,
bien rajouter quelque chose.
C'est le problème dont on parlait tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut faire chacun dans notre foyer ou chez nous pour contribuer
vrai, la plupart des gens pensent ne pas avoir de prise sur le changement climatique parce qu'il paraît trop abstrait, compliqué.
Oui. C'est Pierre Rabhi qui donne la solution. Pierre Rabhi qui a beaucoup travaillé autour de tout ça, il donne la solution avec son colibri. Hein.
Vous connaissez
le colibri qui lâche sa petite goutte d'eau, tout le monde rigole. Mais il dit, au moins j'aurais fait ma part. Si on ne commence pas, on ne s'y met jamais. Donc effectivement, le seul moyen de s'y mettre, c'est de s'y mettre chacun. Même si on a l'impression que ça ne sert strictement à rien. Le seul avantage que l'on puisse avoir, un des avantages que l'on puisse avoir, c'est que quand on s'y met, on rencontre des tas de gens intéressants, des associations pleines de gens passionnés, et que ça permet de s'occuper dans la vie et de rencontrer encore une fois des gens avec qui on peut vraiment avoir l'impression de participer à la vie citoyenne. Si on ne participe pas à la vie politique, donc voilà, c'est une façon de participer quand même à la vie politique, puisque la politique, c'est s'occuper des affaires du pays, quoi.
Alors, Alternativa, c'est pas que le climat, bien sûr, c'est l'habitat, l'alimentation, l'agriculture. Mais on va y revenir, Monsieur Saint-Hilary. Mais pourquoi faire du climat la pierre angulaire de votre combat? Est-ce que tout est conditionné par le climat justement?
Alors. Tout n'est pas conditionné par le climat, mais donc Alternativa, en tout cas, le mouvement qui est parti de Bayonne, c'est comme je l'ai dit, donc c'est basé sur pour faire pression pour que nos politiques prennent de bonnes décisions lors de la COP21. Sinon, le sous-titre, c'est également le village des alternatives, et ce sont toutes les alternatives à la fois énergétiques, évidemment, mais aussi économiques et sociales. Donc, c'est extrêmement important. À Bayonne, le premier Alternativa, ça a été vraiment énorme à tous les sens du terme, puisqu'il y a eu donc 12 000 personnes en un seul jour. Et voilà, avec à chaque fois une partie de la manifestation qui était consacrée à l'énergie, une autre aux alternatives économiques, d'autres alternatives sociales, etc. Voilà. Et nous, l'appel a été lancé pour qu'on crée 10, 100, 1000 alternatives. Hein. C'était Stéphane Hessel qui devait le lancer, mais, non, mais c'est Madame Hessel qui l'a lancé finalement, parce que malheureusement il est décédé entre-temps. Et voilà, donc... L'idée, c'est de faire des alternatives partout, dans les grandes villes et dans les petits villages également, comme nous, donc, à les Ribosques, le nord de Causse.
Christian Lagasse.
Le climat, c'est la partie émergée de l'iceberg, si vous voulez. C'est ce que l'on voit, ce que l'on ressent. C'est ce que l'on voit dans la presse quand il y a des catastrophes, c'est ce qu'on voit quand il pleut trop, quand il pleut pas assez. C'est ce qui nous, c'est une des choses qui nous impacte petit à petit, chaque année, petite couche par petite couche. On s'aperçoit que ça change un petit peu. À travers le climat. Mais il y a beaucoup d'autres choses qui...
Il y a beaucoup d'autres choses. Mais convenez, lorsqu'on est confronté, c'est le cas de beaucoup de personnes, et notamment des auditeurs qui nous écoutent, lorsqu'on est confronté à des problèmes terriens, terre à terre, les problèmes du quotidien, le chômage, les fermetures d'usines, la morosité, convenez quand même qu'il est très difficile de se projeter en 2030, en 2050.
Oui, ça c'est sûr. Mais on peut aussi comprendre... Si vous parlez du chômage, on peut aussi comprendre que une des, je dirais pas de solution, mais enfin une des propositions que l'on peut faire face au chômage, c'est de s'intéresser aux problèmes actuels qui sont peut-être source d'emploi. J'ai horreur de ce terme, mais enfin bon.
Vous avez horreur de ce terme, mais pourtant, effectivement, c'est un argument qui est avancé par les écologistes. Est-ce que vous considérez comme, je vous pose la question à tous les deux, est-ce que vous considérez comme écologiste?
Je ne vois pas très bien comment on peut ne pas être écologiste. Parce que l'écologie, c'est quand même, au sens propre du terme, s'intéresser à la gestion de la maison. Hein, en grec, à quoi c'est la maison. Et moi, je m'intéresse à la gestion de ma maison, si vous voulez. Oui. Je nettoie tous les jours, mon ferme, c'est mal. Et la maison, c'est pris au sens de maison, mais c'est pris au sens aussi de propriété, mais c'est aussi pris au sens de ville, au sens de... Et puis, on arrive à la planète, au bout de la maison. Hein. Oui. Donc, c'est intéressant de s'occuper de la gestion de la planète, je crois.
Monsieur Saint-Hilaire, vous voulez réagir sur le terme?
Personnellement, je me considère écologiste, à condition de prendre la définition exacte de l'écologie, à savoir l'étude ou en tout, des équilibres entre tous les êtres vivants, que ce soit les plantes, les animaux, les hommes. Voilà la vraie définition de l'écologie. Hein. Voilà. En ce sens-là, je me considère comme écologiste. Mais après...
Je vous garde sur ce sujet, si vous permettez. Comment répondre à la fois à ceux qui ont peur de ne pas finir le mois, on en parlait il y a deux minutes, qui souhaitent avoir du travail, et à ceux qui ont peur que le monde s'écroule. C'est ce que José Bové appelait la quadrature du cercle du parti écologiste. Est-ce qu'il n'y a pas une dichotomie entre ceux qui ont peur de la fin du mois, de pas avoir de quoi se nourrir, de quoi se vêtir, de quoi, hein, et ceux qui ont peur de la fin du monde.
C'est-à-dire que si je comprends bien votre question, est-ce que la croissance n'est pas une solution au chômage actuel?
Exact.
Est-ce qu'il ne suffirait pas de retrouver de la croissance? Est-ce qu'il ne suffirait pas de retrouver les mêmes
ressorts,
les habitudes, les ressorts que ce qu'on a fait depuis 20 ans?
Non.
Manifestement, non, parce que ça y rentre pas, quoi.
Vous êtes des partisans de la décroissance?
Alors, la décroissance, c'est un gros mot qu'il ne faut pas prononcer, parce que sinon, on part dans un débat complètement foireux, foiré.
D'accord.
Ou alors, il faut avoir un débat sur la décroissance.
D'accord.
Parce que la décroissance, il faut toujours l'accompagner d'adjectifs.
En tout cas, c'est un terme un petit peu...
Mais ce qui est sûr, c'est que la croissance actuelle ne peut pas continuer comme ça pendant longtemps. Parce que ça rentre pas sur Terre, quoi, tout simplement.
nous sommes, vous savez, on a calculé l'empreinte planétaire des différents pays.
Nous sommes à 4 planètes, en Europe occidentale. Les Américains sont à 6 ou 7. Donc, c'est qu'il y en a. Il en faut forcément qu'il soit à un quart ou à un septième de planète, hein, dans les pays en voie de développement. Et ces gens-là, manifestement, à l'heure actuelle, ils commencent à s'énerver un petit peu. Ils voudraient arriver à une planète, eux aussi.
Alternativa. Donc, Christian Lagasse, Jean-François Saint-Hilaire, je vous propose de nous retrouver dans quelques instants après une coupure de publicité.
CFM à Moissac, 90.7. 90.7.
Cette année, l'émission de France 2, le village préféré des Français, a sélectionné la cité de Saint-Antonin pour représenter la région Midi-Pyrénées. La mairie et l'office de tourisme de Saint-Antonin-Nobleval ainsi que CFM Radio vous appellent à soutenir cette candidature. Et à voter en masse, vous avez jusqu'au 19 mai à 10h pour lui apporter votre vote. Alors, votez pour que Saint-Antonin-Nobleval soit élu village préféré des Français en 2015. Sur le site de France 2, www.france2.fr/village16, par SMS au 7 3003, tapez 16, par téléphone au 3245, choix 16.
Rendez-vous Rugby Pro D2 à Sapiac dimanche 10 mai à 15h. L'US Montauban reçoit Massy pour l'ultime match de la saison. La fête du rugby vous attend avec l'école de rugby. Animation et structure gonflable. Rugby australien, tapas, crêpes, gaufres, vente de t-shirts hostiles. L'USM face à Massy dimanche 10 mai à 15h à Sapiac. Venez faire la fête et dès maintenant, réservez vos places et retrouvez l'actu du club sur usmsapiac.fr.
Gagnez vos places sur CFM Radio en appelant le 05 63 9 130 020 le soir dans l'émission À qui le tour.
3, 2, 1, roulez. Roulez, roulez, j'ai dit, mais roulez.
Pour les voitures exigeantes qui refusent de rouler sans de bons pneus, il y a JPR Automobile. Du 27 avril au 30 mai, profitez de moins 40% de remise sur l'achat de pneus Continental, Firestone, Bridgestone ou Michelin. En plus, l'assurance pneu avec 3 ans de garantie est offerte. Roule ma poule.
JPR Automobile, votre concessionnaire Volkswagen à Alba Sud Montauban, sur le parking de Géant, voire conditions en concession.
CFM à Montauban, Montauban, 101.2, 101.2.
Oui, toujours avec Jean-François Saint-Égary et Christian Lagasse pour parler du village alternatif Alternativa qui va se tenir à l'Honneur de Cos les 16 et 17 mai prochains. Donc je vous pose une question à tous les deux pour retourner sur ce que nous parlions juste avant de la coupure publicité. Comment réunir des gens avec Alternativa ou d'autres mouvements, comment réunir des gens avec des niveaux de conscience et de politisation très très différents? Est-ce que vous n'êtes pas soumis à cette difficulté? Parce que le reproche qui est fait, en tout cas c'est ce que j'ai constaté en faisant des recherches sur votre mouvement, c'est finalement d'avoir abandonné la lutte radicale, celle qu'on a pu voir à Sivens par exemple ou à Notre-Dame-des-Landes, au profit de villages alternatifs, certes festifs, qui rassemblent un peu de monde et puis plus rien après.
Et ça c'est ce que disait Jean-François tout à l'heure, on peut être contre ou on peut être pour. Moi, et je pense Jean-François aussi, nous avons choisi d'être pour. Alors, voilà, c'est tout. C'est une des oppositions entre les deux. Si vous
Alors, on privilégie tous les mouvements pour lesquels une initiative est proposée. Parce que bon, si on prend les gens qui sont contre, les anti-LGV par exemple, une initiative sérieuse est proposée. Bon, quand il n'y a pas d'initiative sérieuse, d'alternative sérieuse proposée, à la limite, c'est pas intéressant. Il ne suffit pas d'être contre. Il faut proposer des alternatives. Et je crois que, en particulier, nous, pour Alternative à l'Eribos, qu'on a essayé, justement, d'inviter des gens qui ont des alternatives à proposer. Et surtout, on a toujours été dans le concret, le local, je le répète encore. Parce que c'est comme ça, pour répondre à votre question, c'est comme ça qu'on convainc les gens en montrant. Hein. Bon, nous, on a une expérience sur l'huile tournesol carburant, par exemple. Là, c'est une initiative concrète et on a bien vu que là ça porte. Quand on montre aussi des maisons paille, des maisons terre, hein, des maisons terre crue, des maisons saturées bois, les gens qui le voient... pense que c'est réalisable.
Vous allez parler à Alternativa des luttes, hein, oui, notamment oui. Celles qui sont relatives à la lutte contre les gaz de schiste, en tout cas l'extraction des gaz de schiste, Sivens, etc. Est-ce que vous êtes pour ces mouvements-là? Est-ce que vous vous situez pas dans ce rapport de force que qu'ont voulu instaurer les zadistes?
Il y a toujours un moment, c'est vrai, où on a l'impression qu'il faut y aller. Ça, c'est sûr. Mais je crois que quand il faut y aller, c'est qu'on a manqué. Je dis on, c'est pas des militants. Je crois que quelque part, dans les discussions entre le gouvernement, mettons, et puis les opposants, il y a un moment où ça se passe pas. Alors, je pense qu'il y a certainement de mauvaises intentions ou des intentions cachées dans les discussions, dans les pré-discussions qui ont eu lieu et qui ont fait que ça débouche sur une impasse. Et quand on est dans l'impasse, c'est comme quand la guerre est déclarée, il faut y aller, quoi. Il faut défendre.
Est-ce que j'ai bien compris alors que vous,
encore une fois, donc il faut à la fois montrer du concret et en tout cas présenter les choses de manière différente. Si je vois par exemple concernant le nucléaire, bon, comme vous savez, le lobby du nucléaire est très puissant en France. Et là, on va parler de ce qui se dit pas. Stop aux idées reçues, ça va vouloir dire, par exemple. Quand on nous dit que le nucléaire permet d'éviter le gaz carbonique, c'est pas tout à fait vrai. Bon, directement oui, mais indirectement, ce n'est pas vrai. Par exemple, etc. Ensuite, montrer.
Vous savez ce qu'on vous reproche finalement, ceux qui veulent sortir du nucléaire, on leur dit finalement. Vous avez des idées moyenâgeuses. Vous pensez qu'on peut éclairer un pays comme la France avec trois éoliennes et
alors hein, je vais redire ce que j'ai dit l'an dernier à la même émission, à savoir entre le nucléaire et la bougie, il y a l'intelligence. Et donc l'intelligence, c'est déjà de réduire les consommations. La plus grande source d'énergie, c'est celle qu'on peut ne pas consommer, en gardant notre confort.
Comment fait-on concrètement pour diminuer notre consommation?
Alors, diminuer notre consommation, déjà, il y a un certain nombre de dispositifs qui existent, comme le solaire, par exemple. Le solaire est assez peu développé. On a parlé beaucoup du solaire photovoltaïque, alors que le plus important, c'est le solaire thermique, puisqu'on utilise directement la chaleur du soleil pour chauffer de l'eau chaude ou pour chauffer sa maison. Et il faut savoir que les évolutions sont énormes. Nous qui suivons les salons et les foires, d'ailleurs, il y aura des installateurs de solaire à l'honneur de cause. Oui. Donc, les innovations, à chaque fois qu'on va à un nouveau salon, on découvre quelque chose de nouveau. S'il y avait plus de sous qu'on consacrait à cette recherche sur le solaire et les énergies renouvelables en général, on pourrait réduire de manière très très forte les consommations.
Et ça vous fait bondir. Vous avez la rage finalement que les choses n'avancent pas aussi vite qu'elles ne devraient l'être.
Moi, ce qui me je sais pas si ça me fait bondir, mais ça m'énerve, c'est de voir qu'en France nous avons quand même pas mal de soleil, surtout dans le sud, et que quand on regarde les toits, il y a très peu de panneaux solaires, qu'ils soient photovoltaïques ou thermiques.
Alors ça, c'est complètement aberrant, quoi. Oui, ça, c'est la faute au lobby nucléaire.
Je ne sais pas de qui c'est la faute, mais il y a certainement des responsabilités quelque part, et certainement au niveau des gouvernements qui ont évidemment favorisé le nucléaire depuis 30 ans, oui, parce qu'au détriment du reste. Si on avait investi l'argent du nucléaire dans les recherches autres, on en serait peut-être.
Parce qu'il y a de l'emploi derrière, vous en convenez.
Bien sûr.
Il y a de l'emploi derrière.
Bien sûr.
Derrière le nucléaire.
Oui.
Par exemple. Il y en a certainement beaucoup moins que dans les installations de panneaux photovoltaïques et dans l'entretien des panneaux.
Oui, mais là, c'est peut-être le début de la fin. J'ai entendu qu'Areva, donc, est en train de licencier énormément. Il y a énormément de problèmes. Puis bon, ça pose énormément de problèmes, le nucléaire. Ce n'est pas dit. Et en plus, on ne le ressent pas. Effectivement, le prix du kilowatt à l'arrivée n'est pas très élevé, mais il y a tout ce qu'on paye avec nos impôts à côté, quoi, qu'on ne voit pas dans le prix du kilowatt à l'arrivée. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Pour le pétrole, c'est pareil. Les routes, on les paye avec nos impôts. Ici à Montauban, par exemple. La mer est loin, donc le pétrole arrive par la mer, les routes, etc. Bon, l'énergie, ce n'est pas comme moi le premier, je pensais à une époque, ce n'est pas simplement appuyer sur l'interrupteur et ou sur un pistolet de pompe à essence.
Bien sûr, ça recouvre.
Quand on s'est aperçu, par exemple, qu'on pouvait faire de rouler les voitures avec de l'huile de tournesol ou surtout mettre en place des dispositifs comme les pistes cyclables, etc., pour consommer moins, et c'est très possible, il y a quelques années, moi j'ai une grosse expérience du solaire. Maintenant, il y a quelques années, quand on ouvrait des bouquins sur le solaire, il n'y avait que des expériences danoises, allemandes. C'est quand même, comme l'a dit Christian, on a quand même un peu plus de soleil qu'au Danemark et en Allemagne.
Et je crois aussi, si vous voulez, que c'est aussi une histoire politique au sens vraiment du terme. C'est qu'en France, on est quand même un pays centralisé et le nucléaire, ça correspond tout à fait à cette centralisation du pouvoir dans des centrales qui sont puissantes et qui sont, il y en a 5 ou 10 ou 10 ou 15 en France. Et ça fait des mini centrales là. Et après, on distribue aux pauvres humains, aux pauvres Français, ce que l'on a envie de distribuer. Je trouve que malheureusement, le solaire et l'éolien, c'est justement l'inverse. C'est que chacun, on peut faire son petit truc dans son coin, faire sa consommation personnelle, évidemment, éventuellement la revendre à EDF, mais c'est chacun pour soi, on peut faire son petit truc. Alors, c'est embêtant parce que ça remet en cause le dispositif qui existe depuis 50 ans de maillage du territoire. Ça pose des problèmes techniques. Mais je crois que le plus gros problème, c'est le problème
comment j'envisage la politique. Voilà. Est-ce que je travaille centralisé ou décentralisé?
Alors, c'est vous qui avez prononcé le mot politique. Demain, il y aura des grandes régions, des hyper-régions, avec peut-être des compétences, des prérogatives en termes d'énergie. Est-ce que vous souhaitez, vous, politiquement, vous engager pour faire avancer les choses? Pourquoi pas vous allier à Europe Écologie Les Verts ou à notre parti? Est-ce que, quelque part, finalement, dans votre dessein, il y a la volonté de vous engager politiquement pour faire changer les choses?
Moi, je suis engagé politiquement, mais je pense qu'effectivement, il n'y a pas d'autre solution que de s'engager pour faire descendre un peu les responsabilités vers le local. Mmh. Le local, alternative à c'est du local, et nous n'arrêtons pas de promouvoir la relocalisation de l'économie. On est allé jusqu'au bout d'une certaine délocalisation qui ne... C'est pas elle qui est responsable de tout le chômage, mais il y a des côtés un peu ridicules dans la délocalisation qui ne sont plus soutenables.
Vous occupez, si je m'abuse, vous occupez de la monnaie, la seule Olympe, hein, comme on l'appelle. Est-ce que ça marche à Montauban?
C'est qu'il y a des difficultés. Je ne sais pas si ça marche, mais ça fonctionne.
Oui, bon, ça fonctionne.
Ça a été introduit depuis un an et demi. Ça fonctionne petit à petit, il ne faut pas être pressé parce que ce sont des habitudes qui sont prises et qui sont difficiles de changer. Mais ça fonctionne et Alternativa, la monnaie officielle sera le sol et la monnaie complémentaire sera l'euro.
Voilà.
Donc c'est une histoire pour permettre pendant 48 heures aux gens de s'habituer à ce nom d'Olympe, qu'ils connaissent bien, de Sol Olympe, et puis de voir un peu que ce n'est rien d'extraordinaire. Alors, quel est l'avantage des monnaies locales? C'est un peu ça, si vous voulez, c'est favoriser la relocalisation de l'économie.
C'est-à-dire faire en sorte qu'elle échappe à la spéculation, hein. C'est un peu ça.
Ça, c'est le deuxième côté. La deuxième cerise sur le gâteau, c'est qu'effectivement, si vous utilisez les sols au lieu d'utiliser les euros, vous empêchez ces euros de participer à au grand cirque mondial de la spéculation. Parce que tous ces euros que vous aurez transformés en sols, ils restent captifs dans l'économie sociale et solidaire.
Votre avis sur la spéculation, sur le monde de la finance, à qui on devait tordre le cou, elle vit ses dernières années? Est-ce que, d'après vous, ce système, il va imploser comme, en tout cas, certains le prédisent?
En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'à un moment donné, l'écologie pure ne suffit pas. Il faut intervenir sur le système économique, quoi. Et là, voilà, ce n'est pas que de l'écologie pure. Voilà.
Mais c'est sûr que ces problèmes de finances mondiales ont porté un coup dur, je pense, à la planète. C'est sûr.
Alors, je voudrais revenir, excusez-moi, sur la relocalisation de l'économie, parce que c'est un point très important pour l'énergie, hein, puisque ça complète les économies d'énergie et l'utilisation des énergies renouvelables. Hein. Puisque, à un moment donné, quand on relocalise l'économie, ça fait des économies d'énergie énormes.
Alors, on va parler d'Alternativa, donc samedi 16 et 17 mai, à l'honneur de COS. Est-ce que tout est prêt? Est-ce que des derniers préparatifs? Comment ça va se passer? On y va et puis on se laisse guider. On participe à des conférences, on mange, on boit, on écoute de la musique. Est-ce que c'est ça, Alternativa?
En partie. Bon, l'idée, c'est que les gens repartent en ayant vu des choses concrètes qu'ils pourront réaliser chez eux. Voilà, l'objectif, il est là, hein, puisque que ce soit au niveau énergétique, au niveau de l'habitat, par exemple, mais aussi au niveau économique, par exemple, s'ils adhèrent à la monnaie locale complémentaire.
Oui, je crois que le principal objectif de ces manifestations, c'est de montrer qu'il y a des solutions qui existent déjà, que des gens les vivent, c'est-à-dire vivent dans des maisons de paille, vivent dans des maisons comme Jean-François, qui sont chauffées uniquement avec du solaire, qui sont pas morts, qui arrivent à survivre et même à bien vivre avec des solutions que la plupart des gens n'appréhendent pas. Non. Ils ont tellement peur, comme vous le disiez, que ce soit ce que ça nécessite de faire des efforts extraordinaires et de revenir dans la caverne, qu'au moins là, on peut voir que ce n'est pas le cas. On aura aussi, par exemple, des agriculteurs ou des maraîchers qui montreront des expériences en permaculture. Mmh. Bon, ben, les agriculteurs classiques verront que on peut faire pousser des choses sans désherbants, on peut faire pousser des choses sans engrais industriels et que ça marche très bien et que les légumes qui porteront auront une bonne mine, seront sympathiques. Est-ce qu'en plus, ça peut également faire un petit peu de bien à la santé, éventuellement.
Vous parlez d'agriculture, est-ce qu'il n'y a pas un problème de taille, de poids entre l'agriculture conventionnelle et celle biologique? On parlait des lobbies nucléaires, gaziers, etc. Est-ce que là aussi, il n'y a pas des lobbies puissants de agroalimentaire qui s'efforcent de retenir un petit peu de bio au salon d'agriculture, mais pas trop? Est-ce que c'est ça, finalement, la réalité?
Alors certes, il y a des gens puissants en face, mais il y a quand même des initiatives importantes de prise et qui sont soutenues par les pouvoirs publics. Je pense par exemple à l'agroforesterie. Malheureusement, je n'ai pas encore de réponse concernant, si quelqu'un l'écoute là, qui fait de l'agroforesterie, ils sont les bienvenus à Alternative à l'Eribosc, parce qu'encore personne n'a répondu. Mais l'agroforesterie, c'est un élément très important donc, qui est soutenu par l'Europe. Hein. C'est l'association, pour résumer, d'arbres
personne n'a répondu, excusez-moi, personne n'a répondu à quoi?
À l'invitation.
À l'invitation.
Voilà. À l'invitation pour Alternativa l'Eribosc concernant l'agroforesterie.
C'est-à-dire que vous souhaitez que...
Je souhaite qu'il y ait quelqu'un qui représente l'agroforesterie Alternativa l'Eribosc.
Qu'est-ce que l'agroforesterie?
L'agroforesterie, donc, c'est une méthode de culture, d'agriculture qui associe les arbres et les cultures. Bon, souvent des cultures annuelles, comme les céréales. Mais on peut également associer des arbres fruitiers et des légumes. Il y a un projet expérimental là, national, voire européen, qui veut mettre en place donc l'association arbres fruitiers et légumes. Sinon, c'est arbres forestiers et grandes cultures souvent.
Très bien. Le message est lancé. L'agroécologie, est-ce que c'est un concept qui vous plaît?
Oui, ça fait partie de ce que l'on défend et de ce que l'on veut montrer. Oui, alors si on nous pose la question, est-ce que ça suffit pour nourrir les 8 milliards ou 9 milliards, c'est toujours la grande question. On ne sait pas. Toujours est-il que ça peut se mettre en place. Il y a des gens, et même à la FAO a dit que c'était possible. Mais enfin bon, ça mérite d'être envisagé au moins, et ça mérite de voir qu'il y a des expériences grandeur nature qui existent et qui marchent. Il y a des maraîchers qui vivent comme ça. Donc,
en tout cas, ça va dans le bon sens. L'agroécologie, c'est un peu différent du bio, donc parce qu'on peut mettre dans l'agroécologie beaucoup de choses. C'est-à-dire, on peut mettre une agriculture intensive, mais quand même avec utilisation de moins d'intrants. Et ça peut rentrer certainement dans l'agroécologie. Bon, certains vont le contester, mais voilà, bon, ça, c'est toute façon, pour moi, on peut nourrir le monde avec, en utilisant moins d'intrants. Hein, ça...
On reste toujours dans les économies.
Ok. Merci Christian Alias, merci Jean-François Saint-Hilary. Donc je rappelle le 16 et 17 mai Alternativa l'Eribosc. L'honneur de Coste. Alternativa l'Eribosc, hein, c'est ça. Et samedi 16 et dimanche 17 mai. Allez-y et puis on verra bien ce que ce sera. Voilà.
À bientôt.
Un grand succès.
Merci
en tout cas d'avoir accepté notre invitation.
Merci.
Kaderioub, la semaine prochaine, un rendez-vous politique?
Alors, la semaine prochaine, c'est férié. On se retrouvera le 21 mai avec Christian Struc, le nouveau président du conseil départemental.